Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre. Là, on peut le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Classe.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues paroles, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je
pas toucher.
Quand même curieux. 100 fois, tu dis, jamais tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 22 septembre, c'est la Sainte Grande Évasion. Sainte Grande Évasion est la sainte patronne de Yaqub Kadri, Mahmoud Abdullah Harda, Zakaria Al-Zubaydi, Ayam Kamamji, Monadal Infiat, Mohamed Harda, et en vérité, de toute la résistance palestinienne. Gloire à elle! C'est à l'aide d'une petite cuillère que Sainte Grande Évasion s'est réalisée et a été canonisée, permettant de jeter une lumière crue sur la faiblesse organique du sionisme et en même temps sur la force de la résistance. Et même si tous les évadés étaient repris, c'est une grande victoire pour la Palestine et c'est une grande victoire pour la liberté. Thank you. C'est une victoire aussi pour tous les emprisonnés du monde. Rien n'est plus beau que cette grande évasion. Libérez Georges Ibrahim Abdallah.
Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. C'est fichtrement vrai. Brooks était ici, Reid aussi. Pour la deuxième fois de ma vie, je suis coupable d'un crime. Violation de liberté conditionnelle. Mais je doute quand même qu'ils aillent jusqu'à barrer les routes pour ça.
Merci.
Pas pour un vieil escroc comme moi. Fort Hancock au Texas, s'il vous plaît. Je suis si excité que j'ai du mal à rester assis ou à garder une idée en tête. Je crois qu'il n'y a qu'un homme libre qui puisse ressentir ça. Un homme libre qui se lance dans un long voyage dont l'issue est incertaine. J'espère que j'arriverai à passer la frontière.
Puissent toutes les prisons de l'ennemi tomber en cendres et que le souffle de la liberté emporte l'impérialisme, le colonialisme, le capitalisme tout entier. Et parfois, il suffit d'une petite cuillère, camarade. Aujourd'hui, mercredi 22 septembre 2021, le soleil s'est levé, mais aujourd'hui je m'en fous. Il va se coucher dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com. Ce soir, diffusion du débat entre Mélenchon et Raoul Edebao, porte-parole du PTB, c'était à Manifiesta le 12 septembre dernier, et nous y étions.
ما شفتك يا بني صار لي زمان صار لي زمان ما شفتك يا بني صار لي زمان صار لي عمر عم بحلم يا بني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك وأحضنك مثل أيام زمان قالوا اسمك سجين قلت لهم اسمه البطل اسمه عراس الجبل بيشعل فينا النار كان الرفاق مثل وعد الأرض ما خذل يا سجن يا معتقل لابد ما تنهار صار لي زمان ما شفتك يا ابني صار لي زمان صار لي زمان ما شفتك صار لي زمان صار لي عمر عم بحلم يا ابني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك وأحضنك مثل أيام زمان
راديو كامبوس
نيغري ليفر نيغري ليفر كوراستان
partout, quand sur la ville tombe la pluie, et qu'on se demande si c'est utile, et puis sur nous, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
106,6.
Bah, tout d'abord, Jean-Luc, je voudrais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Sache-le qu'en Belgique, on sait accueillir les dirigeants internationaux, même quand ils sont français. Ça me paraît clair. Parce que justement, c'est un véritable plaisir. Pour moi, j'ai eu l'occasion la semaine passée d'aller aux
Amphis. Quelle vanne pourrie.
Et donc, en gros, on a eu le plaisir de se rencontrer. Et je crois que c'est important d'avoir des moments où la gauche européenne se rencontre pour discuter ensemble de comment changer la situation en Europe pour les peuples du monde et les peuples européens. Voilà. Alors, sur l'évolution de l'autoritarisme, je peux dire en tout cas qu'en Belgique, on voit une évolution inquiétante. On voit une évolution inquiétante, c'est que, au nom de la protection des populations contre les effets de la pandémie, de plus en plus de mesures nous sont imposées en Belgique qui, en fait, enlèvent les peu de droits démocratiques qui nous restaient. Je vais vous prendre un exemple, je suis au courant, mais on a voté au Parlement la fameuse loi pandémie. Et on verra en fait qu'en France, ils prennent même les mêmes noms parfois. La loi pandémie, c'est une loi, chers amis, chers camarades, c'est une loi qui permet, rien qu'au moment où le gouvernement décrète l'apparition d'une pandémie, d'enlever tous les pouvoirs du Parlement pour débattre des mesures qui sont prises. Donc il suffit que le gouvernement décrète l'état de pandémie, donc ça peut arriver dans les années à venir, ça va encore venir, etc., etc., pour que les parlementaires n'aient plus aucun droit au débat. Bon, on n'avait déjà pas beaucoup de choses à dire au Parlement, mais là, carrément, on n'a plus rien du tout. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle le PTB est le seul parti à avoir voté contre cette loi pandémie. Pourquoi ? Parce qu'on voit que de plus en plus, on veut restreindre nos droits démocratiques. Et cet autoritarisme qu'on voit naître de plus en plus dans tous les pays européens, il a une base économique. C'est que de plus en plus, les multinationales concentrent de plus en plus de pouvoir. Si je peux citer, Jean-Luc, je peux citer Lénine ? Je vais citer...
Ou Trotsky ?
Oui, voilà. Quand on va... Non. Quelqu'un comme Lénine avait déjà très bien décrit comment, au niveau économique, le pouvoir se concentre de plus en plus dans les mains d'acteurs économiques des multinationales.
Ah non, c'est mieux dit par Jaurès.
Ah, Jaurès, carrément. On revient toujours aux Français.
On a 5 minutes par réponse, par orateur.
Ah, putain, on est mal barre. Non, et donc cette concentration de pouvoir qu'on a au niveau des multinationales se traduit dans une concentration du pouvoir politique aussi. Aujourd'hui, on a une situation dans le monde où 2 compagnies aériennes construisent presque l'ensemble des avions dans le monde. Les bières produites dans le monde. 1 bière sur 3 dans le monde est produite par le groupe InBev. On n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité une telle concentration de pouvoir. Et cette concentration de pouvoir, elle se retrouve aussi au niveau politique. Ces multinationales concentrent au niveau des États européens de plus en plus de pouvoir. Et donc, chers amis, chers camarades, et je clôturerai par ça, il y a aujourd'hui une volonté de pouvoir rompre avec ça, les gauches radicales de pouvoir dire on veut reconquérir ce pouvoir qui aujourd'hui se trouve dans les états-majors des conseils d'administration multinationales pour reconquérir ce pouvoir populaire dans la mobilisation dans la rue avec des peuples qui prennent leur sort en main. C'est ça le message qu'on a donné, camarades.
Merci Raoul. Jean-Luc.
Bon, un premier mot évidemment pour vous dire le plaisir que j'ai à me trouver ici. C'est la première fois que je suis invité à un débat public en Belgique. Je veux vous dire quelle est l'importance, à mes yeux, de vous montrer la relation d'amitié et de fraternité qui existe avec notamment Raoul, puisque c'est lui que je connais et avec qui j'échange régulièrement. Nous ne sommes pas identiques. Le concept de parti frère est une chose qui a disparu avec le XXe siècle. Nous sommes tous devant les mêmes difficultés, les mêmes hésitations, la même recherche d'un chemin. Et donc, c'est pour ça que c'est si important que les relations personnelles nous permettent de surmonter l'extraordinaire pulvérisation à l'échelle internationale de nos forces. Car, comme le disait Hugo Chavez, le capital s'est concentré, il a ses lieux organiques de production des idées et des orientations, et nous, nous sommes complètement explosés, alors que ce devrait être l'inverse, parce que, évidemment, la condition du salariat et du peuple, qui sont deux choses légèrement différentes, sont de plus en plus identiques dans le monde. Alors je partage le diagnostic de Raoul, je le complète en vous priant de m'excuser si ça paraît un peu abstrait, mais je crois que c'est notre devoir que de bâtir notre conception du monde, notre stratégie et la tactique sur une pensée aussi claire et théorique que possible sur la réalité. Raoul vient de signaler l'extrême concentration du capital et des moyens de production dans quelques mains. Il en va de même pour la propriété de la richesse produite. Cette 25 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité. Donc, en effet, ce sont des événements sans précédent. Mais à cette concentration correspond un modèle social. Le capitalisme de notre époque a pulvérisé les relations sociales entre les gens. Il a bâti une société de la compétition générale de chacun contre tous, mais aussi de la pulvérisation des goûts apparentes. Veux-tu du yaourt à la banane ? Non, tu préfères au cassis, il y en a. Veux-tu ceci ou cela ? Il est là avec sa myriade de produits et il vous dit en quelque sorte, la liberté c'est moi, puisque je vous permets de choisir, tandis que vous autres, vous êtes là en train de ramener toujours les gens à des grandes catégories globalisantes, le peuple, les travailleurs, tout ça, pop, 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 pop. Il n'y a que les individus qui comptent. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une inversion de la façon des bases sur lesquelles fonctionne la société. Pendant des millénaires, la société a créé du lien, établi des liens entre les gens, renforcé ces liens par tous les moyens possibles. On en pense qu'on veut de la façon avec laquelle elle créait ces liens et elle les renforçait, mais elle les bâtissait. Et pour la première fois, l'injonction sociale, c'est plus de liens. Chacun pour soi, et on verra bien ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, aucune société humaine ne peut vivre sur un tel régime de compétition généralisée. C'est pourquoi, en même temps que s'effondre l'idée qui est la seule capable de rassembler les êtres humains, c'est que nous sommes égaux en droit. Si vous enlevez cette idée, il ne vous reste plus rien. Pendant un siècle et demi, depuis la Grande Révolution chez nous en 1789, notre opposition avec la droite, c'était, eux, ils disaient, mais qu'est-ce que vous racontez ? Égalité, ça n'existe pas. Il y a des gros, des maigres, des petits, des grands, des imbéciles et des très malins. Il y a des hommes et des femmes, ce qui est indépassable, paraît-il. Et donc, ça n'existe pas. Si vous faites un régime d'égalité, ça sera un régime de violence politique, puisque vous irez contre la nature. Depuis la crise climatique, on sait que l'humanité a un destin commun, parce que si le changement climatique va au bout, bah, tout le monde mourra. En tout cas, tous les êtres humains. Peut-être pas les cafards et les fourmis, mais pour l'instant, nous sommes les représentants des êtres humains, principalement, même si les cafards et les fourmis sont aussi indispensables à la biodiversité que nous-mêmes. Bref, nous sommes dans ce moment où, pour compenser l'explosion de la société qu'ils ont eux-mêmes organisée, ils sont obligés de mettre en place un régime, des régimes et des méthodes de plus en plus autoritaires de contrôle pour maintenir l'ordre social et l'ordre public auquel ils sont attachés. Et tout le vocabulaire y tend. Par exemple, on entend parler des forces de l'ordre. Alors que, au moins pour la France, chez vous, je sais que c'est une sorte de paradis, mais chez nous, l'ordre qu'elles maintiennent, en crevant les yeux à 32 personnes et ainsi de suite, il est très connoté socialement. Donc voilà, l'autoritarisme ne vient pas de la méchanceté, mais découle de la nature du système politique qu'ils ont mis en place, qui est incompatible avec la vie en société. Ils ne peuvent donc maintenir les liens sociaux que de force. Je termine en vous donnant quelques exemples, parce que nous sommes sûrement un des exemples les plus pitoyables de toute l'Europe en matière d'autoritarisme. D'abord parce que nous avons une constitution qui est une monarchie présidentielle, qui donne des droits absolument invraisemblables à une personne toute seule. Et là, dans la crise pandémique, comme vous, le président de la République et quelques autres, pour se soustraire à d'éventuelles difficultés, prend ses décisions en conseil de défense. Le conseil de défense est composé de militaires et de personnes qu'on fait venir là, mais il a surtout un avantage, c'est qu'il est lié par le secret défense. Donc, personne ne pourra savoir qui a proposé quoi et qui est responsable de quelle décision. Ils ont donc inventé cette façon de faire qui est unique en Europe, je crois. Il n'y a pas d'autre endroit où on prétend que la lutte contre la pandémie est une question de nature militaire et secrète. Et ça, c'est le cœur de l'affaire. Après, nous avons eu le pass sanitaire. Et vous avez vu que... Alors, le pass sanitaire, moi, j'ai voté contre, ainsi que tous les insoumis, parce qu'on pense surtout qu'il est dangereux, parce qu'il donne l'illusion que vous êtes en sécurité quand vous avez le pass sanitaire ou même que vous êtes vacciné. La vaccination réduit le risque, mais la vérité, c'est que le risque existe. Alors, tous ces éléments ont créé chez nous une société de contrôle généralisé. Et évidemment, la méthode de combat de nos adversaires, je terminerai là-dessus, est dure à démonter. Parce que si vous êtes contre le pass sanitaire, ils vous accusent d'assassiner les gens. Ils vous disent c'est que vous êtes anti-vaccin, ce qui n'est pas mon cas, je suis vacciné. Bon. Et à chaque fois, ils essayent de tracer une délimitation. Chez nous, en France, c'est arrivé à un sommet, puisque M. Macron a prétendu être le parti de la raison et de la science. Autrement dit, tous les autres sont des fous et des obscurantistes. Il y a une forme de radicalisation du discours politique qui interdit l'échange, qui interdit la discussion, puisqu'il y a d'un côté la vérité, de l'autre côté le mensonge, la folie et le reste. Alors, mon mot de fin, c'est ça. La liberté, pour nous, renforce la capacité d'une société à résister aux pandémies. Raoul a très justement dit des pandémies, vous en aurez encore d'autres, et beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce que la cause essentielle, qui est la forme capitaliste de l'agriculture, provoque la destruction des milieux naturels, et la contamination, ça s'appelle zoonose, c'est un nom un peu pédant, transmission des virus des animaux sauvages aux animaux domestiques, et comme l'économie est globalisée, on n'a pas fini d'en voir. Nous pensons que les sociétés qui résisteront le mieux sont celles qui seront les plus unies. Et pour qu'elles soient unies, comme c'est anthropologiquement, je veux dire, dans l'histoire longue de l'humanité, quand ça va mal, les gens serrent les coudes, au contraire de ce que croient les puissants, qui eux se bouffent entre eux. Ils se serrent les coudes. Et donc la liberté augmente la capacité, en impliquant les gens dans la décision, de bien résister aux grands défis. Par conséquent, l'idée d'égalité et l'idée de liberté sont des garanties de survie des sociétés, tandis que le néolibéralisme, la compétition de chacun contre tous, la concurrence libre et non faussée, minent de l'intérieur des sociétés et abaissent leur capacité de résistance face aux catastrophes.
Merci Jean-Luc. Je pense qu'on a eu des exemples très concrets de cette montée de l'autoritarisme, et plus particulièrement maintenant en pleine crise. Et on assiste aussi, malheureusement, dans plusieurs pays, à l'émergence inquiétante de l'extrême droite. Et donc ma question ici, c'est de savoir quel est le lien que vous faites justement entre l'autoritarisme au niveau global, au niveau européen, et l'émergence de l'extrême droite dans vos pays respectifs. En Belgique et en France, je pense qu'on a, deux situations assez inquiétantes. Mais je vais commencer par toi, Jean-Luc.
Ah bon ? Bon.
Si tu veux bien.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je t'ai promis d'être discipliné, donc je le dis à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils craignaient que j'en fasse qu'à ma tête, comme si c'était mon habitude. Bon, nous ne devons pas avoir sur l'extrême droite, d'abord un regard moral ou je ne sais quoi. Nous savons très bien ce qui nous sépare, pour toujours, d'elle. L'extrême droite et nous, nous sommes séparés par l'idée que nous pensons que l'égalité est un horizon nécessaire, utile à la société humaine et qui correspond à une réalité. Les êtres humains sont semblables par leurs besoins et par conséquent, ce sont les régimes égalitaires qui satisfont cette exigence-là. Eux pensent que les êtres humains sont naturellement, spontanément inégaux, du fait de leur couleur de peau, ou de leur religion, ou de leur société. Donc, nous sommes dans une contradiction frontale des visions du monde et des rapports aux individus. Ils n'ont aucune particulière attachement à la liberté. Nous croyons-nous qu'elle est fondamentale dans l'organisation des sociétés. Je mets ça de côté parce que vous le savez, aussi bien que moi. Mais nous devons essayer de comprendre pourquoi ils apparaissent et à quel moment. Et il faut voir la fonction que remplit l'extrême droite pour le capitalisme de notre époque. Le capitalisme, je l'ai décrit il y a un instant, lui ne peut pas proposer autre chose que l'accélération du circuit. Vous avez des sous, vous achetez quelque chose, ça lui donne des sous qui vous permet de racheter des choses, etc., etc. C'est la circulation du capital est l'unique objectif du capitalisme lui-même, et une circulation accélérée. Par contre, il faut produire quelque chose qui unifie la société. Le gros bâton, on l'a dit il y a un instant, et puis après, une idéologie commune. C'est-à-dire quelque chose à quoi tout le monde croit. Si vous ne donnez pas quelque chose à croire à tout le monde, ils vont finir par croire ce qu'on raconte nous, à savoir que l'égalité est préférable. Donc il leur faut fournir quelque chose qui, comme on dit de manière un peu pédante, essentialise les inégalités. C'est-à-dire on dit, mais non, mais ça tient pas, ça tient à la nature des gens, à ce qu'ils sont du fait de leur couleur de peau ou de leur religion. Et tout ça a été inventé dans un bouquin en 1996, donc 5 ans après la chute du mur de Berlin et le fait que le néolibéralisme était devenu souverain dans le monde. Certains avaient dit « c'est la fin de l'histoire ». Et ils ont inventé une théorie qui s'appelle « le choc des civilisations » qui a été rédigée par Samuel Huntington et qui a servi ensuite de ligne idéologique à toutes les droites du monde. Et le choc des civilisations, ça veut dire « il y a des gens » qui ne peuvent pas faire autrement que de s'affronter à cause de leur religion. Donc comprenez, puisqu'on parle de l'extrême droite, pourquoi les musulmans sont leur ennemi numéro un. Parce que, justement, ça permet d'avoir un ennemi dont on suppose à l'avance qu'elle est la personne qui va renoncer à sa foi à personne. Hein. Donc ils font des musulmans l'ennemi, et évidemment, ils lui imputent tous les torts et tous les travers du monde. Comment naît l'extrême droite ? Parce qu'elle est l'agent numéro un du seul liant idéologique et social que propose le capitalisme de notre époque, la peur. Regardez le nombre de productions culturelles faites sur la peur, le nombre de séries, le nombre de vidéos, le nombre de films, de romans, qui tous reposent sur la peur du criminel caché, pervers, secret, et tout ce système qui met en scène comme principal personnage un policier qui mène des enquêtes, et nous en sommes tous souvent assez friands, sans nous rendre compte que nous participons à la construction d'une vision du monde. L'extrême droite est là pour servir de la peur, et le moyen de répondre à cette peur, c'est-à-dire l'opposition frontale entre les populations, entre des gens que leurs conditions sociales unifieraient s'ils n'étaient pas préoccupés, si on ne les obsédait pas de questions religieuses ou de questions de couleur de peau. Il y a des sociétés dans lesquelles l'action salariale est extrêmement difficile, je pense à nos camarades en Inde, parce que le système des castes oppose parfois dans un même travail celui qui conduit le bus, qui est brahman, et celui qui descend les bagages, qui est intouchable. Eh bien, c'est ça que l'extrême droite va propager. L'idée que dans le peuple, il y a une division qui est insurmontable, liée à la religion ou à la couleur de peau. C'est à ça qu'ils servent. Et c'est pourquoi vous en trouvez partout en Europe. L'extrême droite en France n'est pas venue d'une action militante de gens qui allaient sur le terrain. C'est venu directement par l'appareil médiatique qui a continuellement mis en scène les thèmes de l'extrême droite et qui continue et qui essaye de nous voler la prochaine présidentielle. J'en donne qu'un exemple. Le débat qui viennent d'avoir les Verts, qui a un certain panache, est un débat, bon, il s'expose. Eh bien, la première rencontre qu'ils font, c'est avec le service public, qui est une espèce de haut-parleur, de répondeur automatique du système gouvernemental. Et la moitié du débat des Verts, c'était des questions sur la sécurité et l'immigration. Et d'une manière générale, continuellement est entretenue l'idée qu'il y a là une urgence. En France, nous en sommes à une loi, la moyenne, hein, depuis 30 ans, une loi par an sur les sujets qui sont impactés par l'extrême droite, c'est-à-dire sécurité, terrorisme et immigration, parce que pour eux, évidemment, tout ça nous ramène toujours au même point. Donc, nous devons d'abord considérer que l'extrême droite remplit une fonction, c'est le chien de garde de l'ordre social, parce qu'il empêche la cohésion populaire. C'est sa fonction numéro un. Tout le reste, c'est du baratin. Et chez nous, nous voyons comment, plus la crise avance, plus la société se disloque, sans doute comme chez vous. Mais chez nous, il faut se rendre compte que le code du travail a été renversé au début du régime Macron. Par conséquent, maintenant, les accords sont par entreprise et ils s'imposent à tous ceux qui sont là, nonobstant la loi nationale sur les questions du travail. Donc, l'atomisation de la société française est extrêmement avancée. Dans la pandémie, nous avons vu pour la première fois des étudiants faire la queue parce qu'ils avaient faim et qu'ils allaient chercher à la soupe populaire. Donc, il y a un soubassement terrible de division, de pulvérisation de la société. Et le capitalisme, la droite, le macronisme et l'extrême droite, c'est une seule et même réalité. Et aujourd'hui, elle a en France un intellectuel organique. Nous, on a intérêt à repérer à chaque fois qui est la source pour aller mener la lutte et dire « Oui, moi je ne vous céderai pas. Vos salades sur la sécurité, je ne marche pas. Vous êtes l'anti-France. Parce que c'est vous qui commencez à dire que les Français ne peuvent pas s'unifier, que ceux qui sont musulmans ne seront jamais des Français, que les autres ceci, que les autres... C'est vous qui êtes l'anti-France, c'est vous qui êtes l'anti-nation, c'est vous qui êtes l'anti-peuple, parce que vous passez votre temps à opposer les gens les uns contre les autres. En France, il y a un processus de zémourisation de toute la droite et même du macronisme. Parce que nous avons vu une chose incroyable, un président de la République dire que Pétain était un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux criminels, deux traîtres à la patrie et deux antisémites. Voilà ce que sont ces deux-là. Et aujourd'hui, on apprend que M. Macron a demandé une fiche sur l'immigration à M. Zemmour. Alors, je vais vous dire. J'ai dit, parce que Mme Le Pen, entre-temps, essaye de se donner l'allure du doux mouton dans la bergerie, alors la voilà, qui est là, les cheveux au vent, liberté, liberté chérie, mon œil, c'est la sienne de liberté. On sait très bien à quoi on a affaire. Mais comme les autres l'ont dédiabolisé, ils ont un problème. Comment tenir le troupeau à la laisse, hein ? Comment tenir les chiens à la laisse ? Alors voilà pourquoi ils ont produit un Zemmour qui réussit ce tour de force, d'une part, de contaminer tous les esprits, mais en même temps de presque faire passer Mme Le Pen pour une innocente, ce qu'elle ne sera jamais. Alors ils ont entre eux des problèmes pour l'élection, tout ça. Moi j'ai dit, et à la fin ils sont mis d'accord pour faire un repas. J'ai dit que le survivant du pique-nique vienne me voir, et puis je l'affronterai. Alors elle a trop peur, donc elle ne va pas s'y risquer. Mais moi je ferai avec l'autre s'il faut. Et moi je vous demande à tous... La première, comme tout à l'heure, j'aurais dû vous le dire, quelle est la limite à l'exploitation capitaliste ? Est-ce qu'il y en a une ? Oui, il y en a une, la résistance. De la même manière, quelle est la première limite au racisme ? Eh bien, c'est la résistance individuelle que vous y opposez. Après, il y a la résistance collective. Mais si vous ne laissez pas dire une saloperie autour de vous, si vous clouez le bec de ceux qui sont racistes à l'instant même où ils le disent, alors vous contribuez à la lutte et à renverser le cours de l'histoire. Par conséquent, nous autres, nous... Ben ça va, je peux être candidat ici aussi. Bon, merci les amis. C'est ça que je veux vous dire. Nous pouvons et nous devons mener cette lutte sous tous ses aspects, collectifs et individuels. Mais pas question de se réfugier juste en disant « Ah, ben c'est un problème politique, que les chefs politiques s'en débrouillent ». Non, tout le monde peut s'en débrouiller et il faut aller affronter l'adversaire. Donc, ne laissez pas les fascistes discuter entre eux. Il faut aller se mettre là au milieu et dire « Expliquez-nous voir pourquoi, compte tenu de ce qu'est la composition de la population belge ». Moi, je vais dire en France, en 1950, un Français sur 10 avait un grand-père étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Viens m'expliquer pourquoi mon grand-père ne méritait pas d'être mon grand-père et pourquoi moi, je ne mérite pas d'être français. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour être français, à part te donner le mal de naître ? C'est maintenant qu'il faut que tu te donnes le mal de mériter de l'être, c'est-à-dire d'être républicain, liberté, égalité, fraternité. Ne laissez pas un millimètre d'espace aux fachos, ne les laissez pas respirer, ne les laissez pas se croire tranquilles, parce que c'est eux qui sont encore étrangers à nos sociétés, pas nous.
Merci Jean-Luc. Je retourne la question à Raoul pour la situation en Belgique sur cette montée de l'extrême droite.
Non, mais je crois qu'en Belgique, on a le même problème, en tout cas au nord du pays, avec une extrême droite très, très puissante, avec la montée du Vlaams Belang. Et je trouve que Jean-Luc a raison de souligner, et il faut le rappeler à tout le monde, quand on parle d'extrême droite, la nature de classe de l'extrême droite, son rôle historique, c'est celle de casser la résistance du mouvement ouvrier et des jeunes au moment où la crédibilité des partis traditionnels s'écroule parce qu'ils ne savent plus gérer le système. Et on est vraiment dans cette séquence-là en Europe. Dans tous les pays européens, on voit naître des nouveaux partis à la Macron. On voit dans tous les pays européens les partis traditionnels s'écrouler. On le voit chez nous en Belgique. Hein, ils font assez de leur meilleur pour s'écrouler, tous ces partis-là. Et donc, dans les moments de crise, les gens peuvent choisir trois voies. Soit ils continuent dans les partis traditionnels, mais ça va être de moins en moins le cas. Soit il y a une alternative à gauche, anticapitaliste, soit les partis fachos vont prendre la place. Et on l'a vu dans les années 30, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, on l'a vu en Italie, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'enjeu majeur. Il y a un rôle historique de l'extrême droite, qui est une extrême droite qui est au service du patronat. Parce que là, je ne sais pas, c'est chez toi aussi, Jean-Luc, avec la Marine Le Pen, mais ils se font presque passer pour des gauchos. Ils se font presque passer avec des revendications sociales aujourd'hui, des fachos. Il faut aller un peu gratter leur programme. Il faut aller gratter. Il faut aller leur dire, bon, chez nous, le Vlaams Belang. Nous, on est pour les travailleurs, on est pour les travailleurs. On a dit, OK. On a été gratter un petit peu leur programme. On a été voir qu'est-ce qu'ils ont voté au Parlement. Et donc, il y a en Belgique ce qu'on appelle la loi salariale. La loi de 96. Jean-Luc, la loi de 96.
J'ai la traduction. Parce qu'il est marqué manifesta, je croyais qu'on allait parler espagnol.
Voilà. Et alors, pour la petite histoire, je profite que j'ai mon camarade français qui est là, parce que la loi de 96, qu'est-ce qu'elle dit en Belgique ? C'est une loi qui met en concurrence, c'est écrit dans la loi, les salaires belges avec les salaires français, allemands et hollandais. Et donc c'est une loi qui a été votée par tous les partis traditionnels, les premiers évidemment les sociodémocrates, hein, en 96 il y avait les démocrates chrétiens et les sociodémocrates, qui votent cette loi. C'est une loi donc qui fait que quand les salaires sont modérés en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas, nos salaires en Belgique sont automatiquement modérés, notamment à 0,4% maintenant. Et donc une des solutions, c'est de faire sauter cette loi évidemment en Belgique. Une deuxième solution, c'est que nos camarades français gagnent le combat en France, qu'ils aient des meilleurs salaires, et comme ça, nous, on a une loi automatique qui augmente les nôtres. Donc Jean-Luc, on vous encourage au maximum pour ces combats-là. C'est intéressant comme exemple, comment la solidarité, c'est aussi des choses concrètes comme ça. C'est-à-dire la concurrence qu'on organise entre nos travailleurs. C'est pas que la philosophie, c'est des combats concrets qu'on mène, on le verra sur les retraites et tout aussi en France. Alors,
t'as quelque chose contre la philosophie ?
Non, rien du tout. Hein. Je n'oserais pas. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on fait les fachos ? Les fachos, cette loi sur les salaires, ils l'ont votée, évidemment. Ils ont soutenu cette loi sur les salaires. Charles Michel, qu'on a envoyé maintenant en Europe, parce qu'on en avait un peu marre en Belgique, Jean-Luc, mais je ne sais pas si on l'a bien fait, parce que ce n'est pas une lumière. Charles Michel, qu'est-ce qu'il est ? Ouais, c'est pour ça qu'il va à l'Europe, sinon il n'irait pas. Ça me paraît clair. Par contre, on a hérité de son frère, et là, c'est encore moins une lumière, ça je vous le dis. C'est lui qui gère l'informatisation et le numérique en Belgique, on n'est pas arrivé. Mais revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que cette loi de 96, en 2016-2017, Charles Michel a rajouté encore des mécanismes correcteurs qui ont encore moins permis au salaire belge d'augmenter. Eh bien, les fachos de l'opposition ont voté pour ces différentes dispositions. Et donc, chers amis, chers camarades, il faut arriver à démontrer aux collègues dans les entreprises, aux collègues dans les quartiers, parmi les jeunes, etc., que derrière ce vernis un petit peu social, il y a avant tout une politique qui est pro-patronale, qui est anti-salaire et qui est anti-ouvrière et anti-peuple. C'est ça qu'on doit démontrer, camarades, dans les quartiers et un peu partout. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que le succès des fachos en partie, il est dû à quoi? Pendant 20-25 ans, tous les partis traditionnels, y compris les PS et compagnie, ont essayé de faire croire, comme Jean-Luc l'a dit, que le salut était dans l'individu. Moi, je. Je vais réussir ma carrière. Je vais m'en sortir tout seul. Les étudiants en concurrence les uns avec les autres. Les jeunes en concurrence les uns avec les autres. Moi, je. Les gens en ont bouffé de l'individualisme pendant 25 ans à la piqûre. On était tous des individus. Il n'y avait plus de solidarité. Et les gens commencent de plus en plus à en avoir marre de ce moi-je. Et ils cherchent un nous du groupe. Et c'est là où les fachos interviennent. Parce que les fachos viennent avec leur nous. C'est le nous nationaliste. Le nous exclusif. Flamand contre wallon. Le nous raciste. Les Belges de souche contre ceux qui ne sont pas de souche. Le nous nationaliste. La Belgique contre tous les autres pays européens. Si on veut gagner ce combat-là, les camas, on doit venir avec notre nous à nous. Les gens ont besoin de sentir ce nous de classe, ce nous des travailleurs, cette fierté de la classe. Nous avons construit les richesses ici en Belgique. Ce PIB, qui le produit? Qui produit ces richesses? C'est nous les travailleurs. Qui faisons bouger l'ensemble des forces en Belgique? C'est nous la jeunesse. Notre nous à nous, on doit le remettre en avant. On doit remettre une fierté de classe en avant. Quand nous intervenons au Parlement, c'est cette fierté qu'on veut revenir. Pour dire nous on est fiers, nous allons construire notre avenir ici contre tous ces partis traditionnels qui continuent à nous faire payer, mais aussi contre ces fachos qui veulent nous diviser pour mieux régner comme ils ont fait depuis 2-3 siècles. Nous n'acceptons pas ça et notre nous de classe, c'est le nous de victoire et c'est à ça qu'on va travailler, camarades.
Radio Campus.
Raoul, t'es le roi du tango. Raoul, c'est bien toi le plus beau.
106,6.
Je pense que les constats et les défis sont clairs sur le danger qu'on a en face de nous, sur la montée de l'extrême droite, sur la vraie nature de classe des fascistes. Mais la question maintenant, vous en avez déjà touché quelques mots, c'est quelle stratégie la gauche peut mettre en avant pour combattre l'extrême droite? Je pense que c'est aussi des réponses avec lesquelles on veut repartir aujourd'hui. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? On en a parlé un peu, Mélenchon a parlé de la résistance collective, Raoul a parlé de l'importance du nous, de la solidarité, de l'importance de démasquer les fascistes, mais au-delà de ça, au niveau stratégique, comment est-ce qu'on s'oppose en tant que gauche authentique à la montée de l'extrême droite? Jean-Luc.
Bon, d'abord, je vous ai déjà dit tout à l'heure, une résistance implacable. Ça peut paraître dans cette salle évident, mais si vous écoutez les personnes s'exprimer, vous voyez les glissements de toute une série de gens qui acceptent de dire oui, il y a un vrai problème, oui, cette question se pose, et qui finissent par permettre à l'extrême droite de voir valider le socle de ses idées. Ou qui utilisent le vocabulaire de l'extrême droite, ou les équations de l'extrême droite. Sécurité à avoir avec immigration, immigration avec religion, enfin bref. Toutes sortes de choses qui, à première vue et à force d'être répétées, paraissent évidentes, mais qui, sous la lumière de la raison, ne le sont plus. Ils ne permettent pas de régler les problèmes qu'on affronte. Une de nos difficultés, parce qu'elle est dans le contenu même de ta question, ma camarade, comment la gauche peut-elle faire face? Mais il y a un problème, c'est quoi la gauche? Parce que la gauche, c'est un terme que nous avons inventé, en tout cas je parle pour la France, hein, parce que moi j'étais membre du Parti Socialiste Français pendant 30 ans. C'était le parti du programme commun, c'était le parti dont la déclaration de principe disait que le marxisme éclairait nos analyses et qu'il n'y avait pas de démocratie complète dans une société capitaliste. Alors bon, il y a eu un moment où il était évident que ce qui se faisait n'avait plus rien à voir avec ce qui se décrétait. Et j'ai donc pris ma décision d'homme libre avec d'autres, j'ai quitté cette formation qui n'avait plus rien à voir avec les objectifs qu'elle se donnait. Alors, la gauche, je vais vous raconter ça, c'est simple, hein. Vous allez faire du porte-à-porte, et vous tapez à la porte, qui c'est? Eh bien, c'est nous, la gauche. Non, non, nous, on ne vole plus Hollande. Voilà. Voilà. Alors, on peut dire, toc, toc, nous, on est la vraie gauche. Ah bon? Vous-même, vous posez l'omelette sur la table, l'autre n'a plus qu'à couper. Extrême gauche, extrême droite, au milieu, les gens raisonnables. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc nous, on a un problème avec le mot lui-même. On l'a mis en jachère. Moi, je suis un homme de gauche. J'ai passé toute ma vie dans la gauche. J'ai pas peur de dire que j'ai milité toute ma vie avec des communistes et avec bien d'autres, d'ailleurs. Et je suis, j'appartiens à l'école philosophique du matérialisme, hein, qu'il faut pas confondre avec le goût pour les biens matériels. Bon. Donc oui, je me réclame de l'apport de l'héritage du marxisme. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur. Je combats le capitalisme, j'ai pas peur du mot capitalisme, bon, même si j'en fais pas un refrain tous les cinq minutes, parce qu'il faut expliquer ce que c'est. Mais on a un problème avec qui et quoi là-dedans. Donc, il ne faut pas partir des étiquettes. Nous, nous faisions l'unité de la gauche autrefois, pourquoi? Parce que vous aviez une base sociale stable, des grandes plaques de salariat, les cheminots, les gaziers, les électriciens, les ouvriers de chez Renault, des masses immenses de travailleurs, qui avait une condition sociale commune. Aujourd'hui, vous allez sur un chantier, vous avez 10 gars qui sont en train de peindre, ils sont dans 3 boîtes différentes. Et sur 3, il y en a 2 qui sont les sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Le salariat est explosé, atomisé, mis en concurrence. Bref, cette plaque-là n'existe plus. Deuxième plaque, chez nous, il y avait les organisations syndicales traditionnelles, et elles exprimaient les aspirations des différentes catégories de travailleurs qui, des fois, étaient un peu contradictoires. Et puis, le système confédéral permettait aux organisations syndicales d'harmoniser. Et puis, dernière couche, la politique. Et quand les partis politiques de gauche faisaient leur jonction, type le programme commun, eh bien, tout le reste suivait, parce qu'ils trouvaient une expression naturelle. Tout ça a disparu. Par conséquent, si vous essayez de faire l'unité de la gauche, comme on me le claironne continuellement en France, mais c'est à quel prix? Faites des compromis, monsieur Mélenchon. Sur quoi? Dites-moi sur quoi? Sur l'Europe? Non, je ne le ferai pas. Vous avez menti, trahi. En 2005, nous avons voté contre. Et vous autres, les socialistes et quelques autres, vous avez été ensuite au Parlement voter pour. Le peuple dit non et vous dites oui, on a compris, c'est oui. Non, le peuple a dit non. Donc inventez un autre chemin pour l'Europe. Venez en discuter avec nous, ça on est d'accord. Mais si vous nous demandez d'avaler ça, la réponse est non. De la même manière, la 6e République, nous en avons assez de la monarchie présidentielle, elle est dangereuse pour la France. Eh bien alors, faisons un passage à la 6e République, mais pas octroyer. Quel est le problème de demander au peuple, écoutez, puisque vous ne venez plus voter, redéfinissons la règle du jeu. Quelle serait la bonne règle du jeu? Faisons une constituante, et vous déciderez ce que vous voulez. Mais c'est vous qui le déciderez, ils n'en veulent pas. Et ainsi de suite, je parle de planification écologique. Je suppose qu'il doit y avoir des travailleurs dans cette salle en grand nombre. Vous savez comme moi qu'il est impossible d'organiser une transition de la production aussi importante que celle qu'on veut faire sans organiser les choses dans la durée. Ça ne peut pas être dans les 5 minutes qui viennent, d'après la loi du marché. Il faut prévoir, organiser, structurer, changer l'approvisionnement en matières premières, relocaliser des industries, c'est un travail considérable. Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent? Tu es un étatiste. Bah, si c'est ça, être étatiste, oui. Mais c'est vous qui êtes grotesque. Vous ne changerez jamais rien si vous n'acceptez pas la planification écologique, et ainsi de suite. Bref, nous ne sommes d'accord sur rien. Pour quelle raison voulez-vous que je fasse semblant? Je propose donc une autre stratégie. Et c'est sa dynamique qui renverra les récitants du Bobinard anti-musulman, anti-tout le monde, raciste et le reste, dans les cordes, parce que je partirai du concret. C'est ce que je fais. Comment on s'y est pris? On appelle ça la stratégie de l'union populaire. L'union populaire, ça veut dire vous vous rassemblez pour faire aboutir vos idées. Lesquelles? Eh bien, on a posé la question, on a fait des propositions. Lesquelles? Celles que nous-mêmes on prenait dans les syndicats, dans les associations, mouvement qui monte. Puis, on propose, mouvement de proposition. On fait un sondage et qu'est-ce qu'on découvre? 80% pour l'augmentation du SMIC.
90% pour la retraite à 60 ans, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les propositions qui sont portées par notre programme correspondent aux aspirations d'une ultra-majorité du peuple français. Par conséquent, bien sûr, on peut se poser la question, comment ça se fait que vous êtes si majoritaire sur vos idées et que vous ne l'êtes pas politiquement ? Eh bien, c'est un travail politique que nous devons assumer, comprendre et travailler. Mais à l'inverse, si quand 90% des gens, ou 80, ou 70 même, disent qu'ils veulent la retraite à 60 ans, et que j'arrive et que je leur dis, écoutez, tout compte fait, les socialistes, qui sont des braves gens, qui vous ont amené ça à 62 ans, ne veulent pas. Et puis les autres, ils sont d'accord pour une retraite à points, donc ça peut durer jusqu'à 65 ans ou 70 ans, ils ne veulent pas, donc on n'en parlera pas. Eh bien, je suis sûr d'une chose, je n'ai aucune chance d'arriver à convaincre les gens, si je ne parle pas des sujets qui comptent et qui correspondent à leurs aspirations. Par conséquent, le seul programme révolutionnaire, c'est celui qui permet à une masse de gens de se mobiliser pour des objectifs qu'ils partagent. Et ils n'ont pas besoin d'étiquette pour le faire. Parce que même si vous avez voté à droite avant, ou peut-être même à l'extrême droite, et que vous vous dites au dernier moment, bon, alors là, il me propose de détester les Arabes plus efficacement et de jeter à la mer tous ceux qui ont la peau noire. Bon, c'est une idée. Et puis à côté de ça, Mélenchon, il me propose d'arrêter de bosser à 60 ans parce que j'en peux plus, d'augmenter le SMIC à 1400 ou à 1500 euros avec ce que j'ai géré. Ben, il choisira, le gars. Soit il préfère aller discuter et choisir des trucs de fous, qui n'ont aucune chance, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, de se réaliser jamais, sauf dans un massacre, sauf, ou bien, de faire des choses raisonnables qui concernent la vie des gens, qui sont simples, et les gens, ils ont raison d'être simples, parce que la vie, finalement, est simple. Tu peux ou tu peux pas. Tu peux avoir de l'électricité à la maison, tu peux avoir du chauffage, tu peux aller au boulot, tes gosses sont bien élevés, ils ont une bonne école avec le nombre d'instituteurs qu'il faut, si t'es malade, l'hôpital t'accueille. C'est des choses simples comme ça que nous, qui est le programme révolutionnaire du peuple. Le reste, comment trouver son bonheur, comment s'épanouir, à quelle religion croire, c'est une affaire personnelle qui est dans le secret de votre cœur, si vous y arrivez ou pas, que vous soyez riche ou pauvre, il est probable que vous aurez la même difficulté. Mais par contre, devant les questions matérielles, oui, vous avez le mur de la réalité. Et moi, je vois là mon pari. L'union populaire, c'est le rassemblement du peuple sur ses objectifs communs, sur ses causes communes. Alors c'est difficile, oui, mais ça a été quand facile ? Expliquez-moi voir quand c'était facile, que les syndicalistes arrivaient, tout le monde leur sautait dans les bras, qu'on venait proposer le socialisme et les gens disaient « Ah, quelle bonne idée !» Et des fois, des camarades me disent « Mais ouais, quand même, tu devrais être moins clivant. » Mais non, le principe de la démocratie, c'est de cliver, choisir entre des choses différentes. Il faut accepter ça. À quel moment c'était facile ? À quel moment on a eu des leaders où les autres disaient « Ah, vous êtes génial, qu'est-ce que vous êtes intelligent et cultivé, tenez, voilà les clés du camion, on vous les donne. Oh, on ne savait pas quoi faire, alors vous êtes là. » Non, la lutte sera d'autant plus dure que, comme l'a dit Raoul, c'est moi qui vais citer Lénine maintenant. Tu vois ? On peut avoir lu Jaurès et Lénine. Et je ne te cite pas Mitterrand parce que tu vas t'évanouir.
Oh non, pas ça Jean-Luc.
Bon, d'accord, je me citerai moi-même alors. Je pense que c'est une assez bonne synthèse. Mais nous sommes dans cette situation où, comme disait justement Lénine, en haut, ils ne peuvent plus, ils ne sont pas obéis, ils n'y arrivent pas. Et en bas, on ne veut plus. C'est ça la situation de la France. En haut, il est obligé de dire, faire, raconter n'importe quoi et de lâcher les forces de l'ordre pour un oui, pour un non sur tout le monde. Et en bas, les gens n'en peuvent plus, donc ils ne votent plus, donc ils font des manifestations spontanées comme celle qu'il y a toutes les semaines. C'est ça la situation pré-révolutionnaire de la France. Bon, je prends des risques, je ne suis pas si loin que ça, je suis en Belgique. Ils vont répéter partout que Mélenchon veut faire la révolution et tout ça, mais mes pauvres amis, vous n'avez toujours pas compris que la révolution, personne ne la décide. D'accord ? Il y a, dans leur vision policière de l'histoire, Raoul et moi, on se réunit dans un coin, on a un café, on a une feuille de papier, on dit « Bon, alors on fait la révolution ?» D'accord, oui. C'est toi qui amènes les fusils,
bien sûr. T'es libre quand, Jean-Luc ?
Mais on a déjà réglé hier, cette affaire. Mais voilà la vision qu'ils ont de l'histoire et de l'activité des sociétés humaines. Le chaos, le fracassement de cette construction politique est inéluctable. Pour une raison, c'est que la culture de nos peuples, grâce à l'action de nos aînés, est pénétré d'idéal égalitaire. Quand on a fait notre sondage sur nos mesures, le sondeur a dit en sortant, ce qui est frappant, c'est qu'après 30 ans de néolibéralisme, les gens en France continuent à se déterminer par rapport à l'idée qu'ils se font d'un intérêt général. Autrement dit, leur première réponse n'est pas « moi », comme tu disais, « moi, moi, d'abord moi ». Il t'a tout à fait raison sur cette affaire-là. Cette forme d'égoïsme social et qui conduit, par exemple, un gars comme Macron à dire « Je voudrais que nos jeunes rêvent d'être milliardaires. » Pardon, mais c'est immoral. Moi, je ne rêve pas que les jeunes gens fassent des projets immoraux comme être milliardaire. Car tu ne peux être milliardaire qu'à la condition de la pauvreté des autres et leur déchéance humaine. Mais oui, ça m'intéresse que le jeune... Moi, d'ailleurs, je leur dis ça à chaque fois. Je leur dis, vous avez intérêt à bien bosser à l'école parce qu'on a besoin de vous. Nous, il faut qu'on mette tous les camions sur un train entre la frontière belge et la frontière espagnole. Vous avez intérêt à gamberger pour trouver le moyen de le faire. Je veux qu'on arrête d'avoir de l'énergie carbonée. Alors vous avez intérêt à me trouver la manière de faire des hydroliennes pour qu'on en colle partout et qu'on s'en passe. Voilà l'aspiration. Et ça, ils sont prêts à le faire. Les travailleurs, ils sont prêts à se dévouer. Un coup, il y en a un qui m'a dit, je dis, alors les gars, combien vous faut de temps pour mettre tous les camions sur des trains? Ils commencent à s'engueuler entre eux. Pour une fois, ce n'était pas moi qui prenais. Alors ils étaient entre eux. Bon, au bout d'un moment, je dis, bon, on dit d'habitude que c'est les hommes politiques qui savent pas ce qu'ils veulent, mais là, vous êtes des cheminots et vous ne savez pas. Alors, il y en avait un qui était un peu plus âgé que les autres, puis ça devait être un coco. Il s'est dit, je ne vais pas laisser Mélenchon avoir le beau rôle. Alors, à la fin, il me regarde, il dit, écoute, Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, ça dépend de qui c'est qui le demande. Eh bien, c'est très profond comme pensée politique. Parce que si vous le demandez au nom de l'intérêt général, pour le bien de tous, eh bien, les travailleurs, ils sont prêts à retrousser les manches jusque-là. Si vous dites qu'il faut bosser plus parce qu'il faut qu'on soit compétitif, ragnagna, et que ça fasse de la valeur, comme ils disent, alors les gars lui disent, ben, t'as qu'à le faire, hein, parce que moi, j'en ai marre. Voilà, tout simplement, j'en ai assez. Alors, voilà ce que je veux vous dire. La stratégie, c'est pas la gauche. Personnellement, ça m'indiffère. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique, qu'est-ce qui est bon pour le peuple, qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général, qu'est-ce qui est bon pour la patrie républicaine, et à ce moment-là, nous nous rassemblerons pour le faire, parce que les gens sont prêts à faire beaucoup pour le bien commun. Et nous avons des grandes tâches à faire, des très grandes tâches. Jamais aucune génération politique, ce n'est pas une affaire d'âge, je dirais jamais un groupe humain vivant comme nous n'a dû à faire face à un défi pareil. Le cycle de l'eau est entièrement perturbé. L'humanité ne peut pas vivre sans eau potable et sans un cycle de l'eau stable. Nous ne pouvons pas vivre dans de l'air empoisonné. Nous ne pouvons pas vivre avec un dérèglement climatique absolu si nous n'avons pas des règles qui nous permettent d'être tous ensemble pour faire face aux défis. Plus que jamais, le collectivisme est à l'ordre du jour contre l'individualisme sordide et consumériste qui est la propre du capitalisme. Donc, il faut partir de ça. Puis après, bah, advienne que pourra, les amis. Ça n'a jamais été facile, c'est difficile. Et alors, pour nos anciens, c'est encore plus difficile. Donc, on s'en débrouillera.
Merci Jean-Luc, merci.
Je vois que tu es d'accord avec moi.
Eh ben, on va poser la question à Raoul, justement, sur la stratégie du PCB.
Non, il préfère la lutte armée, Raoul.
entre autres. Non, mais je suis d'accord avec une grande partie de l'analyse de Jean-Luc. Je pense que la pire erreur qu'on pourrait faire dans la stratégie de la lutte contre l'extrême droite, c'est de commencer à culpabiliser les travailleurs qui sont sous influence de l'extrême droite. Avec le petit droit moralisateur que les partis traditionnels viennent dire, c'est pas bien, oh là 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 là, c'est immoral, il faut pas voter pour l'extrême droite, on va pas y arriver comme ça. On va pas y arriver comme ça parce qu'il y a un lien, et Jean-Luc le décrit bien, entre la faillite des partis traditionnels et la poussée de l'extrême droite. C'est pas un hasard que le Vlaams Belang en Flandre est monté en premier lieu dans tous les quartiers populaires d'Anvers, où le Parti Socialiste Flamand, le SPA, Voreut, a reculé. Il y a un lien entre le fait que les travailleurs se sentent complètement abandonnés, pas uniquement se sentir, ont été abandonnés par les partis traditionnels de la gauche notamment, parce que la droite, ça, on a l'habitude, mais les partis qui se réclamaient de la gauche, le dégoût qui en a émané et la tendance à vouloir voter ou s'engager dans l'extrême droite. Et c'est un rôle important pour nous, parce que nous avons une chance encore en Belgique que... Au sud du pays, en Wallonie, on n'a pas d'extrême droite. Tout à fait. C'est une très bonne nouvelle. Et on doit aller gratter pourquoi on n'a pas d'extrême droite. D'une part, ça c'est indiscutable, c'est spécifique à la Wallonie, c'est qu'une extrême droite qui veut s'implanter doit avoir une histoire nationaliste à écrire. Une histoire qui est liée à un patriotisme exacerbé ou à un nationalisme exacerbé. Alors en Wallonie, la première question que le Front National belge s'est posée, parce que pour la petite histoire, on a eu des partis des rescapés de justice, en fait, qui avaient lancé, c'est vrai, dans les années 90, 90, le seul truc qu'ils avaient fait, c'est repris le même nom que le Front National en France, quoi. Et donc, ils avaient attendu des listes, mais camarades, il faut avoir conscience qu'ils ont été cherchés dans des cantons en Wallonie, 10, 15, même 18% des voix, pour un parti qui n'existait pas, juste par homonymie avec le parti français. Mais la première question qu'ils devaient se poser, c'est est-ce qu'on est le Front National belge ? Est-ce qu'on est le Front National wallon ? Est-ce qu'on est le Front National francophone ? Enfin bref, toute l'histoire nationale, je veux dire, du côté francophone, est beaucoup moins construite historiquement que, par exemple, en France ou qu'en Flandre, où là, il y a un nationalisme historique. La deuxième raison pour laquelle l'extrême droite n'a pas réussi à s'implanter, c'est que nous sommes là. Le PTB est là. Le PTB est là pour donner justement cette alternative aux gens. C'est important, c'est important. On doit venir avec un discours radical. On doit le dire, nos représentants, nos députés, ne vivent pas avec tous ces salaires de tous ces partis d'extrême droite, ils ont combien ? Du 5, 6 000 euros et tout. Nous, on continue à vivre avec les salaires de travailleurs. Nous venons avec une alternative au système, notre socialisme 2.0 que nous mettons en avant, avec des alternatives en matière écologique, avec des alternatives de création d'emplois. Oui, bien sûr, Jean-Luc, l'État doit intervenir pour pouvoir mettre tout ça en place, parce que l'intérêt général des travailleurs doit être au-dessus de tout ça et doit prévaloir sur l'intérêt individuel. Ça, c'est une radicalité qui permet d'offrir à tous ces travailleurs une alternative aux fachos en donnant une alternative systémique à gauche toute à travers le PTB. Ça, c'est la première mesure qu'on doit imposer, chers camarades. C'est pour ça qu'on y va. Deuxième axe important, c'est de se battre contre toutes les portes d'entrée de l'extrême droite. Jean-Luc, tu as tout à fait raison quand tu as abordé tout à l'heure la lutte principale contre le racisme. Ne rien laisser passer en la matière. Montrer dans le concret l'unité des travailleurs. Combien de fois, ici, dans la fête, combien de fois des camarades sont venus me trouver pour me dire « Raoul ». Ce qui est génial ici, c'est que ce n'est pas que des discours. On est ici tous ensemble. On est ici les Wallons, les Flamands, les Bruxellois. On est ici les jeunes et les moins jeunes. On est ici des travailleurs d'origine immigrée et les travailleurs, comme on dit aujourd'hui, belges de chouche. On est ici, les amis bruxelloises qui sont présents ici, avec ou sans voile, on s'en fout, parce qu'on est tous ensemble pour construire le monde meilleur. C'est ça l'enthousiasme qu'on doit donner. Et ça, ça se nous mène, et c'est mon dernier point que j'ai développé, en matière de stratégie. Nous croyons au PTB dans cette stratégie de la lutte. La lutte des travailleurs. Et de ce côté-là, c'est un débat qu'on doit avoir au sein des gauches de gauche en Europe, des questions stratégiques qui ne sont pas toujours évidentes. Mais c'est vrai que je vais parler juste pour le PTB. On croit dans ce rôle crucial à jouer par les organisations syndicales et par le monde du travail dans son organisation socio-économique dans les entreprises. Tu as raison, Jean-Luc, de dire que l'identité de classe est moins présente au niveau de ce qu'on va appeler le salariat. Mais nous pensons qu'il y a un siècle, le même défi se posait. C'est-à-dire que cette unité de la classe ouvrière, il a fallu la construire. C'est-à-dire, dans les mines, ce n'est pas que tout le monde se sentait mineur. Il y avait le porion en chef, il y avait ceux qui étaient en surface, il y avait les mineurs belges et mineurs français en concurrence les uns avec les autres. Et quand on voit dans Germinal, ben, la lutte des mineurs français finit par... vous avez vu le film avec Renaud, là. Hein, c'était pas son meilleur film, mais on le voit, qui est venu casser la grève, c'est les mineurs belges. Donc cette question de l'unité de la classe, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement, mais qui vient par l'apport du politique et du syndical. Et de ce côté-là, on croit que nos sections d'entreprise, bon, le PTB a cette particularité de construire des sections d'entreprise, parce que nous pensons que les grandes entreprises et moyennes entreprises du pays peuvent être réellement des fers de lance contre l'extrême droite, parce qu'elles peuvent donner le ton en matière de lutte de classe. Je pense que, et en France, on peut que souhaiter, Jean-Luc, mais je sais que tu le souhaites toi aussi, dans la campagne électorale maintenant, mais s'il pouvait y avoir une lutte de classe sur les retraites, on imposerait, nous, notre camp à nous, nos points de débat. On ne parlerait pas de la sécurité aujourd'hui en France, on ne parlerait pas de l'immigration, on parlerait des retraites, on parlerait des salaires. Et nous, notre expérience, Jean-Luc, en Belgique, c'est que ces luttes, le cœur de ces luttes se déroule dans les moyennes et grandes entreprises du pays. Et je vois beaucoup de syndicalistes présents ici aujourd'hui, je sais que le travail n'y est pas simple. Mais nous, spontanément, je vais le dire, on a un parti qui est en forte croissance, il y a énormément de monde qui nous dit ouais, « Raoul, il faut se construire dans les communes, il faut qu'on mette des listes dans... » et s'étaler au niveau des communes. Et on voit petit à petit que nos sections d'entreprise dans notre parti deviennent de plus en plus petites parce qu'on est de plus en plus présents dans des communes. Mais je veux dire à tous les camas qu'on va concentrer nos forces dans les entreprises. Et je sais que le travail n'y est pas facile, parce qu'en Belgique, les droits de l'homme s'arrêtent aux portes des entreprises. Dans une entreprise, tu ne peux pas parler. Moi, je suis rentré en politique via, et elle est peut-être dans la salle, maman, est-ce que t'es là? Mais ma mère, c'est la meilleure de toutes. Si, bien sûr. Ma mère, elle travaillait à Sherwood dans une entreprise de la chimie en région liégeoise, et juste parce qu'elle était déléguée syndicale, elle a été licenciée par son patron. Licenciée. Le procès qui a suivi son licenciement a dit clairement que c'est un licenciement abusif. Et chez nous, en Belgique, contrairement même, je pense, en France, il n'y a pas d'obligation de réintégration. C'est-à-dire qu'un patron en Belgique, quand il met du pognon sur la table, il peut couper la tête à tous les délégués syndicaux qu'il veut. Et bien pour ça, moi, chers camarades, j'appelle ça ta dictature. Parce que ça veut dire que les gens dans les entreprises qui s'expriment pour défendre les intérêts des travailleurs peuvent être licenciés. Pour moi, c'est une absence de droits de l'homme et c'est un combat essentiel qu'on va mener dans les années à venir. Et donc, oui, on est trop long, mais donc je pense réellement qu'en matière de stratégie contre l'extrême droite, on doit arriver...
Quoi ? J'ai dans une blague. Je t'en prie, Raoul. Je disais, toi, t'es trop long, on m'a promis d'être discipliné. Oh,
j'ai pas chronométré Jean-Luc,
oui,
mais je pense que... Mais c'est ça le plaisir, justement, d'être là.
Voilà la jalousie.
C'est que je pense que... Non, mais je donne avec plaisir des secondes en plus à mon camarade Jean-Luc. Hein. C'est l'invité aujourd'hui.
Raoul,
c'est l'invité, hein. Je pense qu'on va devoir tendre la main à plein de couches sociales, que le monde du travail va tendre la main aux intellectuels, que le monde du travail va devoir tendre la main aux paysans, aux agriculteurs, que le monde du travail va devoir tendre la main à la jeunesse pour former un front ensemble contre les monopoles, contre le capitalisme et contre les fachos qui en sont les représentants. Ça, c'est une stratégie avec laquelle le PTB va aller maintenant dans les années à venir, parce que les fachos, on va les faire reculer, camarades. On va pour le combat.
Radio Campus.
Raoul, t'es le roi du tango. Raoul, c'est bien toi le plus beau.
106,6.
Merci. Merci Raoul, merci Jean-Luc, merci à vous deux pour ces perspectives de lutte. Alors maintenant, il nous reste un tout petit peu moins que 30 minutes pour prendre quelques questions de la salle. Je vais aussi être très stricte sur le timing, donc je vous demande vraiment de jouer le jeu et de poser vos questions directement et pas des interventions. Il y a mon camarade André qui est dans la salle et qui va faire tourner le micro-baladeur. Et alors, on va donner la priorité aux femmes et aux jeunes. Donc, on va commencer par... pour être sûr d'entendre tout le monde. Et on va prendre 3 questions à la fois et on verra ce qu'on a le temps d'aborder.
Je travaille plus maintenant parce que je ne peux pas y aller en aide dans une organisation et je trouve, j'exagère un petit peu, qu'il faut dire maintenant, au lieu de dire tous les travailleurs ensemble, tous les paysans du monde ensemble, puisqu'il s'agit de la survie de notre terre, de notre survie, on est pour l'instant... Les fermiers, les paysans sont en grève depuis 8 mois. Il y en a plein qui sont morts. Et ça me fait mal au cœur qu'internationalement, ils ne soient pas soutenus. Pour moi, c'est terriblement important parce que chez nous, le taux de paysans qui se suicident en France, c'est le même problème. On veut industrialiser l'agriculture en Inde et apparemment, c'est le Workers' World, je ne sais pas très bien ce qui va, où j'ai lu la nouvelle, que c'est le World Trade Organization, c'est nous qui demandons à Modi en Inde de faire ce qu'il est en train de faire. Il est soutenu par nous.
Ok, merci.
Apparemment.
Merci. Une deuxième question.
Bonjour. Moi, c'est une question à propos de comment gérer les médias. Vous êtes au pouvoir, M. Mélenchon président, le PTB en majorité. Comment il faut financer les médias? Est-ce qu'il faut arrêter le financement de tous les médias? S'il y a des trucs un peu à la Zemmour, ou il faut financer tous les médias. Comment concrètement on fait pour éviter qu'une parole comme Zemmour puisse se propager comme ça?
Merci.
Bonjour, c'est une question pour M. Mélenchon. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il va se présenter aux prochaines présidentielles, pourquoi il n'a pas peut-être choisi un autre candidat, parce que vous avez été quand même un peu, charrié par rapport à ça. Donc voilà, c'est ma question. Pourquoi c'est vous qui vous présentez?
Ok, merci. La question est claire. On va commencer par ça, hein, parce qu'on doit quitter vraiment à 14h pour laisser la place à Helmut Lotti. Donc moi, j'ai noté ici, il y a trois questions. Il y a une question très importante, je pense, sur le rôle des médias, notre rôle par rapport aux médias. Il y avait une question de madame sur l'alliance progressiste avec les autres classes. Et alors, une question plus personnelle sur la candidature de M. Mélenchon. Mais je ne sais pas, qui veut commencer ?
Sur ma candidature, vas-y.
Pas le temps de préparer, Jean-Luc, je vais répondre déjà à la première, comme ça tu peux te concentrer. Non, sur la question, sur les agriculteurs, je pense que c'est vraiment important de voir à quel point, effectivement, il y a quand même toute une classe paysanne qui est en train de disparaître. Je pense que le problème est encore plus présent en France. Parce que chez nous, en fait, le capitalisme belge a déjà attaqué la classe paysanne largement avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois que c'est un vrai problème et qu'il y a un combat mondial aujourd'hui pour l'ensemble de la paysannerie. De ce côté-là, la concurrence mondiale à travers l'Organisation mondiale du commerce, que tu as citée tout à l'heure, la World Trade Organization, je crois que c'est vraiment un autre ordre mondial qu'on devrait construire en matière de business. Et c'est pas un hasard quand tu parles de l'Inde, les attaques sociales qui se font. Je rappelle quand même que c'est assez frappant de constater que nos élites politiques dessinent l'Inde aujourd'hui comme étant un exemple de démocratie, notre allié dans la région. Hein, je veux dire, Modi en Inde qui opprime ses paysans, l'Inde où on est en train d'emprisonner les musulmans. Là, il y a pas de problème. Là, c'est open bar, on fait du business avec l'Inde. Mais alors, les méchants chinois. Ça, on peut. Tu vois, ça, c'est le deux poids deux mesures au niveau international. Donc, je crois que ce soutien, on a tenté de le faire un maximum, ce soutien justement des luttes et de relayer les luttes, parce que ça permet peut-être de faire le lien à la question sur les médias. Qui est au courant, ici en Belgique, qu'il y a des luttes de millions d'agriculteurs en grève en Inde? On pourrait ouvrir le JT en Belgique avec ça. On pourrait dire, oui, bonjour, bienvenue au JT de la RTBF. Alors, nouvelle en direct de l'Inde, 1 million de paysans sont en grève, interview en direct de notre envoyé spécial. Ah non, ça, tu vas pas avoir. Non, mais ça, tu vas pas avoir. C'est ça le problème en Belgique des médias. C'est ça, et donc de ce côté-là, je pense que, bon, je vais alors prendre la deuxième question, et comme ça après j'ai la parole à Jean-Luc, je pense qu'on est une situation un peu différente en Belgique par rapport à la France, parce qu'en France, on est vraiment plus loin de la fascisation des états d'esprit et de la carte blanche qu'on donne réellement à des Zemmour et compagnie. Je pense que chez nous, il y a encore certainement du côté francophone ce qu'on appelle le cordon médiatique, en fait, qui est quand même d'une certaine limitation de l'extrême droite. En Flandre, ça s'est déjà sauté depuis plus longtemps. Mais par contre, le point commun qu'on a entre la France et la Belgique, c'est la monopolisation des groupes médias. En Belgique francophone, il y a deux groupes capitalistes qui contrôlent presque l'ensemble de la presse et il reste un groupe public. Et donc à la question de ce qu'il faudrait faire, il faut d'abord un pôle public concret, démocratique évidemment et refinancé. Mais deuxièmement, je crois qu'il n'y a pas d'alternative, c'est que nous, notre camp à nous, doit construire ses propres médias. Je crois que c'est un enjeu stratégique et on en apprend aussi pas mal de la France insoumise. On doit pouvoir construire un contre-pouvoir au niveau médiatique. On ne va pas pouvoir continuer à permettre aux autres forces économiques de déterminer quel est le sujet à discuter. Nous voulons, par nos médias à nous, et je le dis, je pense que c'est un point commun qu'on tente de construire, notamment avec la France insoumise et les autres gauches radicales en Europe, c'est de pouvoir avoir, via les réseaux sociaux, via nos propres canaux vidéo, et j'appelle ici un maximum de camarades, si vous avez des idées sur la question, on doit gagner la bataille de l'information. Parce qu'il y a un lien entre l'information qui est mise au cœur du débat, par exemple les retraites, par exemple qui doit payer la crise, et la victoire qui est à la clé. Il y a un lien entre le fait qu'on ne parle que d'immigration, mais il y a les BFM TV, les CWT et compagnie. Parenthèse, nous, on reçoit de plus en plus les maires françaises chez nous. Hein.
Je veux dire, Jean-Luc, il faut que tu résous ça, quoi, vraiment. On a les M6 et compagnie, on avait que TF1 pendant 20 ans. C'était déjà dur, hein? Mais maintenant, on reçoit de plus en plus. Donc de ce côté-là, ça montre bien le point commun. Bah, l'avantage avec TF1 en 2012, c'est qu'on avait Jean-Luc qui venait chez nous. C'est comme ça qu'on a appris à connaître Jean-Luc. Mais le problème, c'est que derrière Jean-Luc, on s'est coltiné tous les autres, que je ne vais pas citer. Donc si on voulait refermer la porte juste derrière Jean-Luc, ça nous arrangerait.
Merci Raoul. Mais Jean-Luc, justement, je pense que ce sera intéressant aussi d'avoir
votre point de vue. Sur la première question concernant la paysannerie, ça fait apparaître deux problèmes. Le premier, celui que je soulignais au départ, c'est que nos forces dans le monde sont atomisées. Il y a évidemment des organisations syndicales qui tentent d'unifier les combats, ou en tout cas de les faire connaître, mais on est en dessous de la main, il faut bien dire ce qui est. Vous évoquez la grande grève des paysans indiens, mais il y en a d'autres de cette nature. Je pourrais prendre... Là, on parle des paysans, ne vous inquiétez pas, je reviens dans une seconde. Mais regardez, par exemple, comment, alors qu'on nous bassine du matin au soir avec Cuba, qui n'a rien fait à personne, et Venezuela, ils sont muets comme des carpes sur la Colombie, où toutes les semaines, on nous tue 4, 5, 6 camarades. Et ce sont les jeunes, parce que c'est une politique ciblée pour détruire la relève militante en Colombie. On assassine des journalistes, on assassine des syndicalistes. Rien, pas un mot. Et nous, on est faibles, on n'est pas à la hauteur. Parce que si nous étions capables de monter une campagne internationale un peu coordonnée, je pense que ça retiendrait les bras des assassins. Comme on l'a fait, par exemple, pour notre copain, là, que tu as vu, Raoul, on était ensemble, un des gouverneurs du seul État de gauche fédéral de Colombie. Bon, le mec, il est sorti parce, avec sa femme et son gosse, tout petit, parce que les types le menaçaient de mort. Et maintenant, ils l'ont obligé à revenir. Mais notre protection, le fait qu'on a tous réagi, fait qu'il a une chance d'être vivant. Mais toutes les semaines, on nous tue du monde. Et nous ne sommes pas capables de monter ces campagnes internationales. Ça, c'est pour l'aspect purement lutte. Après, il y a l'aspect de fond que vous soulevez. Et c'est une situation qui est extrêmement importante à traiter d'une manière concrète et méthodique que celle de la paysannerie. Dans notre pays, il y a moins d'étudiants que de paysans. La concentration s'est faite à un point jamais vu. Et dans une situation de surexploitation et d'auto-exploitation telle qu'il se suicide un paysan tous les deux jours en France. Et il se suicide parce que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Les raisons du suicide sont toujours fort complexes, tout le monde le sait. Mais en attendant, c'est parce qu'il n'y a plus de futur, plus d'avenir. Et la nature est saccagée. La fertilité des sols a baissé du fait de l'utilisation massive des pesticides que l'Union européenne est incapable d'interdire, et M. Macron encore plus, à cause de méthodes d'agriculture industrielle qui détruisent les sols. La fertilité des sols est en baisse, en France et dans le monde. Et enfin, si nous voulons avoir la politique que nous voulons avoir, c'est-à-dire une agriculture qui nourrisse d'une manière saine nos enfants, la jeune génération, notamment à l'école, avec l'obligation que toutes les structures collectives d'alimentation soient fournies en matières premières bio. Or, le bio coûtera plus cher. C'est une certitude, premièrement. Donc, si vous voulez que les gens puissent se payer du bio, c'est-à-dire qu'ils puissent payer les paysans honnêtement, car la progression du pouvoir d'achat pendant les soi-disant 30 glorieuses s'est faite sur le dos des paysans. Comme le prix de l'alimentation baissait, eh ben, les travailleurs avaient un pouvoir d'achat plus grand pour le même salaire. Ils avaient l'impression que la lutte de classe, en quelque sorte, était amortie sur le dos des paysans. Maintenant, il faut les payer correctement. Donc, pour les payer correctement, il faut que le consommateur puisse payer. Autrement dit, augmenter le SMIC, c'est écologique. Pourquoi ? Parce que ça permet de payer plus correctement des paysans qui font des productions écologiques. On ne peut pas séparer l'écologie de la question sociale. On ne le peut pas. Alors, voilà, je terminerai à propos de ce sujet sur un exemple tout bête. Comme on a dit, bah écoutez, agriculture paysanne, on dit comme ça, hein, voilà, et un copain me dit qui est maire, moi j'aime bien aller discuter avec les copains sur comment on fait concrètement. Et le copain, il me dit, écoute, c'est bien, je suis d'accord avec toi, ouh, c'est génial, mais bon, il y a un problème, nous, il n'y a pas une carotte ici à moins de 200 kilomètres. Personne n'en plante. Donc, la réorganisation de l'agriculture concrète, réelle, où on plante quoi ? Alors, ou du maïs avec la flotte qu'on sort de terre pour sortir ce maïs, pour être sur le marché mondial, pour aller alimenter des élevages intensifs, ou bien l'agriculture vivrière. C'est un choix. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'il fait, les gars ? les filles, là. Qui c'est qui va le faire? C'est vous, là? Parce qu'il m'en faut 400 000 en France pour remonter la pente et arriver au niveau auquel on voudrait arriver d'agriculture vivrière. Allez trouver 400 000 personnes pour aller à la terre. Ça ne sera pas en leur disant, ben, ça, je vous propose une chose, une vie de bagnard, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances, et ainsi de suite. Personne ne veut de ça. Donc vous serez obligé de changer la condition sociale de l'agriculteur si vous voulez que les jeunes qui ont envie d'y aller, hein, y aillent. Et il y en aura plein qui auront envie. Donc c'est pour vous dire, la question de la réforme agraire, c'est plus une question qui est réservée aux pays du tiers-monde où les terratenientes avaient tout. C'est une question qui se pose maintenant dans les pays avancés pour des raisons écologiques et sociales. Question numéro 2, les médias. Je vais vite. C'est très complexe et on a fait un travail, je crois, important. Alors je réponds d'abord comme vient de le faire Raoul. On ne va pas attendre que ça se fasse. Hein, on fait. Donc nous nous battons pour avoir nos propres médias, pour les faire connaître, et on a besoin de tout le monde pour en amplifier l'impact. Plus nous sommes puissants, plus nous faisons peur, plus ils ont affaire à nous, et plus nos idées travaillent en profondeur la société. Et construit un état d'esprit, construit une conscience de citoyens et d'une nécessité des tâches révolutionnaires auxquelles nous appelons. Et ne croyez pas que ça soit résiduel. Toutes les générations de lutte ont fait comme ça. Moi, j'ai connu ceux qui étaient des papés à l'époque, qui allaient porter combat socialiste avec la bicyclette dans le bled paumé pour les deux adhérents. Il fallait le faire en cachette pour pas que ça se voit, que le curé ne voit pas qu'on vendait des machins mal pensants aux uns et aux autres. Donc toutes nos générations de militants, la première tâche d'un militant, c'est de diffuser les idées. Le principal enjeu de la lutte politique, c'est la conscience, surtout quand on est un démocrate et qu'on n'a pas l'intention d'obliger les gens à coups de bâton à faire ce qu'ils ne voudraient pas faire. Il faut donc convaincre. Donc c'est une tâche centrale. Moi, je suis très fier, grâce à l'équipe que j'ai, je n'ai aucun mérite personnel dans cette affaire, à avoir la première chaîne politique YouTube en France, 550 000 abonnés. Bon, ça veut dire que tous les jours, on travaille, on diffuse des contenus, des pensées. Et il y a ce que j'appelle, moi, le parti sans mur. C'est cette masse immense de gens dont le niveau culturel s'est élevé au cours d'une génération. La génération passée a fait ce qu'il fallait pour ça. Et donc la nouvelle génération est en moyenne plus instruite, plus curieuse, plus cultivée et accès à plus grand nombre de sources. Ne croyez pas au misérabilisme qui consiste à insulter la nouvelle génération en disant « elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, c'est des abrutis et ils ne s'intéressent à rien ». Parce que ce n'est pas vrai. L'intelligence collective, si c'était vrai, hein, eh ben ils donneraient pas tant de mal pour détruire l'école publique. C'est bien parce qu'ils ont les chocottes de ce qu'on est en train de faire de la conscience de classe. Après, de masse. Après, qui on paye, et ainsi de suite. J'ai pas le temps, là. Mais il y a plusieurs livrets qui existent de la France insoumise. Je vais juste dire une chose, y compris pour les gens de médias qui nous écoutent. Le problème n'est pas l'indépendance des médias. Le problème est la pluralité des médias. Parce que être tous indépendants pour dire tous la même chose ne nous procure strictement rien, même si vous êtes indépendants. Nous avons besoin de pluralisme, nous avons besoin de contradictions, nous avons besoin que les débats aient lieu, que les gens puissent réfléchir, et que même on a besoin de douter, car l'intelligence rationnelle procède du doute. C'est parce que vous avez un doute que vous réfléchissez. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans l'action politique, on sait qu'il faut créer le conflit, parce que c'est le conflit qui crée la conscience. S'il n'y a pas de conflit, ben, c'est évident, quoi, tout va bien, c'est comme ça, ben, oui, c'est vrai. Ou comme on disait dans le bled où j'habitais, « Ah ben, on a toujours fait comme ça !» Ah ben, il n'y a plus rien à dire, hein, puisqu'on a toujours fait comme ça. Eh bien, c'est donc la contradiction et le conflit. Donc, nous avons besoin de pluralisme. Et là, je rejoins Raoul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, sur la presse française? 90% de la presse appartient à 9 personnes. Mais allez dire ça à un cheval de bois, il vous donne une ruade si vous lui dites après « La presse est libre ». Libre de quoi, s'il vous plaît? Je vais vous la raconter, la liberté. Le patron désigne le rédac-chef, qui désigne le sous-rédacteur, qui jusqu'au dernier lampion. Et tout le monde, quick, sur la même ligne. Comment? C'est bizarre. Ah ben oui, parce que c'est évident, ils sont tous d'accord. Ils sont recrutés à cause de ça. Et ça va de mal en pis. Partout où nos camarades ont conquis démocratiquement le pouvoir, le premier adversaire, comme le disait Ernesto Laclau, ce n'est pas vrai que c'était la droite qui était en capacité de nous affronter. Nulle part elle ne l'était, parce qu'elle ne trouvait pas les masses populaires pour nous affronter. C'est le système médiatique qui nous affrontait, qui nous traîne dans la boue, qui nous diabolise, qui nous psychologise. Et la preuve, je fais la transition, tu ne m'en voudras pas de ne pas aller beaucoup plus loin, mais j'ai toujours dit que c'était la deuxième peau du système. Alors ils sont très habiles. Si vous attaquez un journaliste, « Ah, comment vous attaquez les journalistes ?» Non, pas le celui-là qui est un menteur, qui triche, qui tous les jours raconte des trucs qui sont faux, sans blêmir, ou qui entend des mensonges éhontés et qui n'arrête même pas la personne qui les prononce, qui laisse sur un plateau de télévision dire que si les Martiniquais ne se vaccinent pas davantage, c'est parce qu'ils sont en proie au vaudou et personne ne dit rien. Et heureusement que la chaîne s'est excusée. Et elle est, je veux la saluer, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Hein. C'est la chaîne LCI. Dans cette circonstance, elle a été à la hauteur de sa responsabilité. Mais c'est tous les jours, pendant des heures. Et c'est comme ça qu'on vous fabrique des personnages, comme moi. Alors je suis, moi, une sorte de démon, un furieux, tellement clivant, parce que les autres, c'est bien connu, ils rassemblent. Mais moi, je clive. Monsieur Macron, il vous dit, vous êtes rien, des gens de rien, vous êtes des Gaulois réfractaires, blablabla, blablabla, il clive pas. Mais moi, oui, je clive, parce que je dis, l'ennemi, c'est pas le musulman, c'est le financier, quelle horreur. Quelle horreur, comment vous pouvez cliver comme ça, monsieur Mélenchon? Voilà comment ils s'y prennent. Et ils psychologisent la politique. Alors, aux élections présidentielles, c'est une bataille d'égo. Mais ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle en France. Si tu es candidat à l'élection présidentielle en France, tu prends directement une inscription pour être douché par les égouts tous les jours. Voilà. Voilà ce que c'est. Moi, j'ai plus de vie depuis maintenant 10 ans. Je n'ai plus de vie personnelle. Et d'ailleurs, quand je porte plainte pour protéger ma vie privée, on me dit « Ah ben non, vous êtes un homme public ». Je dis « Non, je ne suis pas un homme public, je suis un homme privé qui a une activité publique ». Eh bien, je n'ai pas le droit, parce que les gens ont le droit de savoir. Hein, ont le droit de savoir tout sur moi, et donc ça donne le droit de m'insulter, de mentir, d'avoir des journaux qui, par exemple, donnent à deux de leurs journalistes la tâche d'écrire un livre sur moi. Il y en a un tous les ans, hein, à la rentrée, ping-pong-pong, les feuilles mortes et le bouquin contre Mélenchon. Et la dernière fois, c'était deux zouaves, dont l'un, le frère, était le dirigeant d'une agence d'intelligence. Il y avait quand même suspicion. Ils écrivent le livre, je perds le procès, et qu'est-ce qu'elle fait? La femme qui avait écrit le livre, elle va se faire embaucher par l'agence d'intelligence. Journaliste un jour, espion le lendemain. C'est quoi la différence? Bon, après on m'a présenté, alors voilà, je suis un type qui se lève, qui est complètement imbu de lui-même, mais attendez, vous vous trompez sur mon compte. Je n'en tire strictement rien d'être candidat, à part d'être pourchassé avec une hargne, une méchanceté dont vous n'avez pas idée, parce que vous ne la supportez pas, comme je peux devoir la supporter, même quand je vais me faire vacciner. Il suffit qu'un con d'extrême droite me poursuive dans la rue, hein, et se mette à crier après moi, et c'est un événement, parce que je n'ai même pas le droit d'aller me faire vacciner et d'être dans un vaccinodrome, comme toute personne, avec le droit au respect de ma personne, de ma dignité personnelle. Alors, pourquoi c'est moi qui suis candidat? Alors, vous avez deux options. Parce que je suis un cinglé masochiste qui adore souffrir, ou bien parce que nous l'avons décidé. Mais c'est qu'à moi qu'on pose cette question. Et M. Montebourg, qui c'est qui lui a demandé d'être candidat?
On ne lui demande pas.
Par qui il est investi? Moi, je peux vous répondre. J'ai été investi par le parti de gauche, parti dont je suis membre. J'ai été investi par la coordination des secteurs des insoumis. Et j'ai dit, je suis candidat si 150 000 personnes me parrainent. J'en ai 250 000. Voilà pourquoi je suis candidat. 7 millions de personnes ont voté pour le programme que je porte. Mais je ne veux pas laisser un seul millimètre d'ombre sur cette affaire. Au départ, je n'avais pas envie, d'accord? Parce que je savais ce que ça voulait dire pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à tout le monde, j'ai réfléchi, j'ai consulté autour de moi, 20 000 réponses, j'ai lu un bouquin de gens qui se sont exprimés. Et ils m'ont tous dit des choses très sensées, les uns disant, il y a un risque, c'est la troisième fois que tu y vas. D'autres disant, tu as une sécurité, parce qu'il y a 7 millions de personnes qui ont voté pour toi, on devrait bien arriver à retrouver une partie. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et puis j'ai réuni le groupe parlementaire. Nous n'étions rien. C'est la première fois qu'en France, une structure de gauche alternative, de gauche radicale, la première fois de toute l'histoire de la gauche française, la première fois qu'il y a un groupe parlementaire. Le PSU n'y était pas arrivé, les autres formations n'y étaient pas arrivées. Nous avons donc là 17 députés, femmes et hommes, qui sont l'honneur de l'esprit de rébellion et d'insoumission, qui étaient des travailleurs pour un certain nombre d'entre eux, et qui font gloire à ma patrie. Et puis 7 qui sont au Parlement européen. On a eu une réunion d'amis, une réunion de frères et de sœurs, une réunion de combat, et je leur ai dit, écoutez, ça va, j'ai écouté tout le monde. S'il faut, j'y vais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller? Dans quel parti vous avez entendu dire qu'on ait fait une chose pareille? Alors je les ai regardés, les plus jeunes, qui sont si brillants, et qui auront leur tour le moment venu, parce que j'ai fait le travail pour que ce soit possible. Je l'ai fait, comme homme, comme combattant, pas pour mon orgueil personnel. Alors ils sont là, et vous verrez, vous autres, les puissants, les importants, qui m'insultez aujourd'hui, vous allez vous en taper jusqu'à la fin du siècle, des insoumis, parce que la relève est là, qu'ils ont 30 ans, qu'ils ont 40 ans. On ne vous lâchera jamais. Le fil rouge a été tenu et il continue. Nous ne nous sommes pas effondrés comme ça a été le cas. Alors personne m'a dit, écoute Jean-Luc, t'es sympa, mais tu commences à avoir de la bouteille. Alors on pense que... Non, aucun. Ils m'ont dit, écoute, il n'y avait pas de candidat. Personne d'autre n'a dit, je ferai mieux que toi. Et s'il l'avait dit, alors je crois que j'aurais peut-être dit, oui, j'écoute, vas-y, dis-nous comment, pourquoi. Non, non, mes amis, ce n'est pas une affaire égotique. C'est une affaire de lutte et de combat. Les camarades pensent que je suis le mieux placé. Je ne le serai pas toujours, et c'est la dernière fois que je suis le mieux placé. Je servirai la cause de ma patrie et de ma classe jusqu'au bout, quel que soit mon âge, et je ferai le truc que le devoir commande. Et je me fiche qu'on se moque de moi. Je me fiche qu'on m'insulte, même si je souffre. Parce que ceux qui sont dans la boîte, dans l'entreprise, dans le syndicalisme, ils souffrent 100 fois plus que moi. J'ai vu les camarades dans la lutte, tout seuls, ne sachant plus que faire, s'accrocher à moi parce que j'étais leur porte-parole politique, comme ils s'accrochent à Raoul et aux autres camarades. Parce que quand vous êtes dans la boîte et que vous êtes tout seul, c'est la gloire d'en avoir un qui parle au Parlement ou à la télévision. Et vous, vous avez des bons, alors protégez-les. Occupez-vous d'eux, ne les laissez pas tout seuls, ne les laissez pas se faire insulter, protégez-les. Ce sont vos porte-paroles, la chose la plus précieuse que vous ayez.
Au petit bal, quand je t'ai rencontré, le cœur battant, je t'ai invité. Mais par une valse on a commencé, je t'ai marché sur les pieds. Heureusement c'était pas trop tôt, la deuxième danse était un tango. Là dans mes bras ton cœur chavira, et tu m'as dit comme ça: Raoul, t'es le roi du tango, Raoul, c'est bien toi le plus beau. Raoul, écrase-moi contre toi, tu me fais chaud, tu me fais froid. Raoul, t'es le roi des danseurs, crois-moi, je t'en parle en connaisseur. Raoul, le tango n'est pas mort, avec toi c'est du sport. Corps contre corps, le cœur tout en feu, on a vibré les yeux dans les yeux. Mais comme toujours, ce parfait bonheur a passé comme une fleur. Je me suis dit, au prochain dimanche, on va revenir sans payer une tranche, montrer aux jeunes générations lequel est le champion. Raoul, t'es le roi du tango, Raoul, c'est bien toi le plus beau. Raoul, écrase-moi contre toi, tu me fais chaud, tu me fais froid. Raoul, t'es le roi des danseurs, crois-moi, je t'en parle en connaisseur. Raoul, le tango n'est pas mort, avec toi c'est du sport. Mais à présent finit le tango qui nous mettait le feu dans la peau. Tout le monde gambit comme aux Amériques, des trucs épileptiques. Il faut les voir se contorsionner, les yeux en l'air se décortiquer. Ça, ça vaut pas le bon vieux tango qu'on se payait chez Julot. Raoul, t'es le roi du tango, Raoul, c'est bien toi le plus beau. Raoul, écrase-moi contre toi. Tu me fais chaud, tu me fais froid. Raoul, t'es le roi des danseurs. Crois-moi, je t'en parle en connaisseur. Raoul, le tango n'est pas mort. Avec toi, c'est du sport.